Bonjour mes frères et mes sœurs. Peut-on toujours compter sur Dieu, sur ses promesses, sur sa parole? Par exemple, nous avons entendu dire que toute chose concourt à notre bien. Est-ce le cas? Eh bien, il faut que je vous pose d'abord la question suivante. Pouvez-vous toujours croire à ce que la Bible dit? Nous savons que Dieu est bon, cela est certain. Mais l'est-il toujours? Nous savons que Dieu est patient. Cela est certain, mais l'est-il toujours? Nous savons également que Dieu se rappelle toujours ses promesses envers nous. Mais ces promesses sont-elles toujours valables? Il y a une différence, voyez-vous. Par exemple, d'après la Bible, les gens, certaines personnes disent « Toute chose concourt à notre bien ». C'est bien dans la Bible, c'est un verset, d'accord? Mais est-il vraiment le cas? Toute chose concourt-elle toujours à notre bien? Eh bien là, je répondrai par un oui, par un non, parce que voyez-vous, le verset que je viens de vous citer n'est pas complet. C'est ce que je disais lorsque je parlais aux gens en étudiant la métaphysique. Je disais par exemple que, en effet, la Bible dit que toute chose concourt à notre bien. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est là qu'une partie d'un verset, malheureusement, comme beaucoup de monde aujourd'hui, je versais à l'époque, il y a plusieurs années, ce verset-là à moitié. C'était plaisant à dire, c'était plaisant à entendre, c'était agréable. Les gens veulent entendre que toute chose concourt à notre bien. Mais voyez-vous, il y a une différence. C'est là la différence entre une étude sérieuse de la Bible et une étude de la Bible à notre façon. L'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert, c'est lui qui a écrit ce verset. Mais ce verset, il faut le prendre dans son entier, exactement comme l'apôtre Paul l'a écrit, et non pas en tirer seulement quelques mots qui nous plaisent. On peut dire que toute chose concourt à notre bien, si. C'est justement ce que l'apôtre Paul a dit. Laissez-moi citer Romains 8, 28 en son entier cette fois-ci. Il dit, nous savons du reste. Il y a déjà au commencement une certitude. Lorsque vous dites, je sais, dans ce cas-là, si vous ne mentez pas, c'est qu'il y a une certitude. Vous savez. Que savons-nous? Il dit, nous savons du reste que toute chose, c'est bien toute chose concourt au bien de ceux, voyez-vous. Là maintenant, les conditions commencent à se poser. Au bien de tous ceux qui aiment Dieu, et que ça continue, c'est pas la fin, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez-vous, il y a donc deux conditions qu'on laisse de côté. Toute chose concourt à notre bien si nous aimons Dieu. Aimer Dieu signifie le respecter, lui obéir, faire sa volonté. Et ensuite, si nous sommes appelés selon son dessein. Mais cela signifie quoi? Il y a des gens qui ne sont pas appelés selon son dessein, mais si. Seulement, il faut comprendre la différence. C'est que Dieu appelle en ce moment-ci certains d'entre nous, non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous sommes plus intelligents, au contraire, mais il nous confie une tâche. Donc, Dieu nous appelle en ce moment-ci pour que nous puissions accomplir cette tâche. Donc, c'est ça son dessein. Plus tard, nous avons déjà parlé de ça, à plusieurs reprises, plus tard, il appellera le monde entier. Donc, revenons à ce verset. Toute chose concourt à notre bien, si nous sommes appelés par Dieu, et si nous aimons Dieu, et si nous lui restons fidèles. Notez à ce propos ce que David a écrit dans Psaume, chapitre 37, verset 7, un psaume, des phrases extrêmement intéressantes. Il garde le silence. Là encore, voyez-vous, je peux vous expliquer longuement ce que signifie garder le silence. Lorsque vous vous plaignez, vous ne gardez pas le silence. Lorsque vous critiquez, vous ne gardez pas le silence. Lorsque vous jugez, vous ne gardez pas le silence. David dit dans Psaume 37, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel. » Voilà. Si nous pouvions vraiment mettre en pratique ce verset-là, nous aurions déjà conquis une grande partie de nos difficultés. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, pas en un homme quelconque, pas à une personne quelconque. Espérez en Dieu. Ensuite, il nous montre notre caractère humain. David, dans ce verset-là, voyez-vous, parfois nous sommes jaloux, parfois nous envions les autres, souvent nous critiquons. Et David écrit dans ce verset, dit « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies ». C'est cette tendance humaine que nous avons. Nous disons, mais pourquoi lui a réussi alors que nous, nous échouons? Je parle maintenant d'un sens tout à fait ordinaire. Il dit, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Autrement dit, ne soyez pas jaloux. Demandez à Dieu qu'il vous aide, mais entre-temps, réjouissez-vous, comme tout le monde devrait le faire, pour ceux qui réussissent, pour ceux qui se repentent. Comme la Bible dit, les anges même au ciel se réjouissent lorsqu'un seul pécheur se repent. Certains d'entre nous trouvent injustice lorsque Dieu manifeste sa bonté envers les autres. Certains d'entre nous, nous sommes jaloux lorsque quelqu'un réussit, comme David le dit. Alors que nous-mêmes, nous échouons peut-être, je ne sais pas. Certains d'entre nous ne se réjouissent pas lorsque quelqu'un d'autre réussit à surmonter même ses doutes, ses mauvais penchants. Autrement dit, si quelqu'un ou lorsque quelqu'un se repent vraiment de son attitude. Ce sont des choses banales, si vous voulez, des choses extrêmement importantes, mais c'est ça la différence entre le caractère humain et le caractère divin. Dieu est toujours bon, certes, si nous sommes bons à son égard. Dieu est toujours patient, certes, si nous sommes aussi à notre tour patients, ainsi de suite. Notez dans ce verset-là, psaume 37, 7, que être jaloux des autres n'est pas la façon de plaire à Dieu. Au contraire, nous devons toujours nous réjouir lorsque quelqu'un se repent. Lorsque quelqu'un change d'attitude, lorsque quelqu'un devient vraiment chrétien, au sens littéral de ce mot. Autrement dit, voyez-vous, nous avons tous dans ce monde, dans cette vie, si vous voulez, des difficultés. Nous avons des problèmes parfois difficiles à résoudre. Nous avons des doutes, et c'est normal. Nous avons tous des doutes parfois, car nous sommes humains, nous voyons les circonstances autour de nous, et surtout nous avons la présence de Satan, le diable, qui est toujours encore à ce bon monde. Donc, il est normal que nous ayons des doutes parfois, mais nous devons en sortir, nous devons nous tourner vers Dieu, en sachant que lorsque vous manifestez votre foi en Dieu, des doutes disparaissent. Ça, c'est la base même, je dirais, de l'assurance sur Dieu, ou bien de l'assurance que nous devons avoir en ce qui concerne les promesses divines. David était un homme extrêmement courageux. Du reste, Dieu l'a appelé parce qu'il a montré le courage de David, son attitude, mais en plus de ça, David avait un caractère extrêmement intéressant de ce fait que lui, lorsqu'il comprenait quelque chose, lorsqu'il comprenait la volonté de Dieu, David s'y accrochait. Il ne répétait pas ses péchés. Il a commis beaucoup de fautes, même plus que, je dirais, l'homme normal. Mais contrairement à l'homme normal, il s'est toujours repenti. Il a toujours manifesté ce désir d'aller jusqu'au bout, de comprendre, de manifester son amour pour Dieu, et de faire ce qu'il pouvait faire afin de pouvoir être un homme selon le cœur de l'Éternel. Et c'est le cas parce que Dieu l'appelle un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était convaincu, je dis bien convaincu, que tout ce que Dieu dit est vrai, que tout ce que Dieu promet est juste, et que tout ce que Dieu promet, cela va s'accomplir. Voilà la différence. C'est pourquoi, voyez-vous, David, malgré ses péchés, malgré son adultère, malgré ses crimes même qu'il a commis, a pu dire, et je cite maintenant Psaume 37 toujours, versets 25 à 26, quelque chose que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, ne pourraient pas dire. Il a écrit, je répète, Psaume 37, versets 25 à 26, « J'étais jeune, comme nous tous, j'ai vieilli, comme certains d'entre nous, mais je n'ai point vu le juste abandonné. » Regardez-moi cette assurance, regardez-moi cette conviction. Pouvez-vous endurer autant, pouvez-vous vraiment endurer autant avec force, avec conviction, que vous n'avez jamais vu dans votre vie le juste abandonné? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne voyez pas la présence de Dieu autour de vous, dans votre vie. Ensuite, David continue, « Ni sa postérité mendiant son pain. » Regardez-moi ça. J'ai vu dans ma vie, mes frères et mes sœurs, beaucoup de cas où les gens devaient choisir entre l'obéissance à Dieu et perdre un travail, mettons. Ou même perdre un ami, je sais. Le fait est que s'ils ont choisi ce que Dieu disait, même au risque de perdre quelque chose, un travail, un ami, je ne sais, ils ont toujours fini par constater que Dieu est bon, Dieu est juste, et que toute chose concourt, en effet, à notre bien. C'est pourquoi ce que David a écrit, c'est juste, et nous devons nous-mêmes pouvoir répéter la même chose, comme David, malgré les circonstances hostiles, malgré nos souffrances, malgré les tragédies parfois que nous rencontrons. Voyez-vous, ce sermon que je fais aujourd'hui, c'est un sermon d'encouragement. Je voudrais vous encourager tous, car nous avons tous des moments où nous n'en pouvons plus. Mais il ne faut pas que ces moments se répètent, il ne faut pas que ces moments s'éternisent, il ne faut pas que nous puissions, nous, à notre tour, comme certains, abandonner, alors que là, comme David a écrit, Dieu ne nous abandonne jamais. Nous devions pouvoir, en effet, en toutes circonstances, quelles que soient les tragédies, les difficultés, les problèmes, pouvoir dire toutes choses concourent à notre bien parce que nous aimons Dieu et que nous sommes appelés selon son dessein. Voilà le secret. L'apôtre Paul était humain comme nous le sommes. L'apôtre Paul n'avait pas quelque chose de plus que nous. Certes, il avait le Saint-Esprit, mais si nous sommes baptisés, si nous avons accepté les conditions divines, nous devons avoir aussi ce même courage, cette même conviction. Parce que ce que l'apôtre Paul avait, ce n'était pas de lui-même, c'était la force que le Saint-Esprit lui donnait. Seulement, Paul mettait en pratique ce qu'il savait, ce qu'il croyait. Il a été convaincu, il vivait sa foi. Tandis que certains d'entre nous, nous ne le faisons pas. Laissez-moi vous, du reste, vous citer un incident, enfin, incident, ce n'est pas le mot, une partie d'un problème, d'une circonstance qui a beaucoup changé la vie de l'apôtre Paul. Entre autres, je le répète, il a beaucoup souffert. Un jour, ses persécuteurs étaient après lui et l'ont tellement frappé ou bien lapidé même, je dirais, que Paul était pris comme étant mort. Notez-le. Actes, chapitre 14, versets 19 à 22. Alors survinrent d'Antioche, je cite, et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé, regardez-moi ce mot, lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Alors, jusqu'à quel point on peut vraiment souffrir physiquement parlant? Les gens autour de lui pensent qu'il est mort. Verset 20, acte 14. Les disciples l'ayant entouré, voilà que Paul se lève, entre dans la ville, et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Incroyable. Miracle, oui, d'accord. Mais regardez-moi cette force, regardez-moi cette conviction. Pouvait-il dire à ce moment-ci que toute chose concourait à son bien? Oui, parce que voyez-vous, c'est ce qui est arrivé. Mais il a fait face à la persécution. Donc, il est parti le lendemain pour prêcher. Et quand ils eurent évangélisé cette ville, un certain nombre de disciples retournèrent ailleurs pour continuer leur travail. Je paraphrase. Mais quel était leur but? Un homme qui est abattu, un homme qui est lapidé, un homme qui est pris comme étant mort. Regardez voir le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Prenez le temps, mes frères et mes sœurs, pensez, réfléchir à cette promesse. C'est par beaucoup de tribulations, et une tribulation souvent amène des souffrances, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas encore dans le royaume. Nous marchons vers le royaume. Lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, et lorsque nous marchons dans la vérité, nous aurons des tribulations et nous serons en train d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceci arrivera lorsque nous serons ressuscités après la mort. Donc voilà ce que l'apôtre Paul faisait. L'apôtre Paul nous encourage à ne jamais abandonner, jamais perdre notre foi. Quel que soit le degré de nos souffrances, le secret, c'est de croire en la promesse divine, de savoir que toute chose concourt à notre bien parce que nous aimons Dieu et parce que nous sommes appelés selon son dessein. Ça, c'est le secret. Avoir les yeux sur le but. Si je regardais moi et dans ma vie personnelle, la vie que j'ai eue, j'ai passé, et je ne suis pas très jeune, je peux voir, je me dis, mais c'est futile cette vie. Humainement parlant, oui, c'est futile cette vie. Mais cette vie n'est pas vraiment le but. Le but, c'est le monde à venir. Le but, c'est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ainsi, lorsque vous avez les yeux sur ce but, le reste, c'est secondaire. C'est comme une fleur, une vapeur qui disparaît. C'est ainsi, voyez-vous, que nous devons avoir les yeux toujours sur le but, sur l'arrivée, et non pas sur le départ. Tout le monde peut commencer quelque chose. Tout le monde peut avoir un projet mis à exécution. Ce qui compte, c'est aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout demande la persévérance, demande la force, demande la foi, demande le courage, et demande cette conviction que toute chose, en effet, concourt à notre bien, si, avec un grand si, nous aimons Dieu, et si nous sommes appelés selon son dessein. Notez encore ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Ce sont des choses importantes. À quoi bon dire « je suis chrétien » si vous ne mettez pas en pratique les enseignements bibliques? À quoi bon de dire que vous êtes vraiment dans l'Église de Dieu même, si nous sommes dans l'Église de Dieu, alors que nous ne vivons pas comme des gens qui sont vraiment dans l'Église de Dieu? Si nous nous comportons comme tout le monde, ce n'est pas la façon d'être chrétien. Le véritable chrétien pour qui toute chose concourt à son bien, c'est parce qu'il agit comme le Christ agit ou agirait. Il agit comme les apôtres ont agi, comme l'apôtre Paul a agi. Voyez-vous, c'est là la différence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit à Timothée, et je cite maintenant en partie 2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 13, et en expliquant quelques versets, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Voyez-vous, tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui souffre, mettons, et vous dites, « Souvenez-vous de quelque chose. » Ici, de quoi devons-nous nous souvenir? Du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ a souffert plus que n'importe qui dans ce monde. Donc, il commence ce verset 8 dans 2 Timothée. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ensuite, il décrit qui était Jésus-Christ, de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel, dit-il, voilà maintenant la réponse, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Voilà. Êtes-vous prêt? Êtes-vous disposé à souffrir jusqu'à la fin comme un malfaiteur, alors que vous ne l'êtes pas peut-être, à cause du Christ. Le Christ n'a absolument commis aucune faute, aucun péché. Et pourtant, il a souffert plus que n'importe qui sur cette terre. On l'a accusé, on l'a blasphémé, on l'a persécuté, on l'a crucifié. Pourquoi ? À cause de nos péchés. Donc, si nous avons cette compréhension, nous pouvons avoir vraiment les yeux sur le Christ. Et ensuite, comme l'apôtre Paul dit au verset 10, regardez voir ça, regardez voir ses forces. C'est pourquoi, dit-il, je supporte tout à cause des élus, c'est-à-dire ce que Dieu appelle, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voilà, cette phrase déjà nous donne le but de la vie. Nous sommes tous en ce bon monde des gens qui sont nés pour un but. Et si nous sommes appelés, dans ce cas-là, nous devons avoir les yeux sur le Christ, sur le but final, la gloire éternelle. La gloire éternelle, c'est, je répète, notre entrée dans la vie éternelle, après la mort et la résurrection des morts. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, et je cite maintenant le verset 11, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Donc, si nous sommes morts en Christ après notre baptême, nos péchés ont été enterrés dans l'eau. Donc, nous sortons de cette eau de baptême et nous vivrons avec lui par le Saint-Esprit que nous recevons. Il dit, si nous persévérons, verset 12, je prends mon temps parce qu'il vaut mieux que je prenne des versets entiers et vous expliquer que plutôt finir le chapitre que j'avais en tête ou bien l'idée que j'avais en tête, mettons, en ce qui concerne le sermon. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous régnons, lui aussi nous régnera. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, non. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la plupart du temps, les difficultés que nous avons, c'est nous qui les créons. Nous commençons quelque chose, nous ne savons pas comment finir. Et nous blâmons quelqu'un d'autre, ou bien même parfois Dieu. Je répète, la plupart du temps, c'est nous qui créons nos propres difficultés, parce que nous commençons à faire des choses qui nous plaisent d'abord, en notre nature charnelle. Et ensuite, l'apôtre Paul écrit au verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Voilà la bonté de Dieu. Mais nous payons quand même des conséquences si nous nous éloignons de lui. Car il ne peut pas se renier lui-même. Comprenez-vous cette phrase ? Dieu est bon, toujours bon. Il ne peut pas être mauvais, quelles que soient les circonstances. La difficulté avec nous, je répète, c'est que nous sommes trop impatients. Lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, nous voudrions que la chose arrive tout de suite. Tout d'abord, est-ce que la chose est vraiment nécessaire? Ensuite, demandez à Dieu la patience. Évidemment, la patience est quelque chose qu'on ne peut pas demander. Il faut qu'on apprenne à être patient. Mais si vous mettez en Dieu votre foi, votre conviction, vous savez que Dieu répondra, comme il dit, toutes choses concourent à votre bien, au moment opportun. Peut-être c'est demain, non pas aujourd'hui, la réponse. Entre-temps, si vous abandonnez, vous avez échoué. Donc, dans tout ce que vous demandez, soyez fidèle à Dieu, attendez la réponse, pas selon votre désir, selon le désir de Dieu, et vous aurez cette réponse. Prenez par exemple la construction d'un bâtiment. Vous regardez la construction, quand le bâtiment n'est pas encore terminé, vous dites, mais c'est la confusion. D'accord. C'est ainsi que nous sommes en formation d'être construits, non pas en tant que bâtiment, mais en tant qu'instrument entre les mains de Dieu. Dans toute chose, nous devons attendre la fin. Attendre la fin en faisant toujours notre part. C'est ainsi que nous devons vraiment avancer, et c'est ainsi que nous pouvons dire que toute chose concourt à notre bien. Voilà la différence. Il y a toujours des diverses étapes dans notre vie. Parfois, nous sommes abattus, parfois, nous sommes joyeux. C'est normal, c'est humain. Mais nous devons avoir quand même, au sens propre du terme, notre esprit sur le Christ, et quelles que soient les tragédies, quelles que soient les difficultés dans la vie, avoir quand même un cœur joyeux. Parce que tout ce qui est sur cette terre, je répète, que ce soit très important à nos yeux, ce n'est qu'un souffle, un vent, qui aujourd'hui apparaît et demain disparaît. Si nous avons donc, je répète, les yeux sur le Christ, sur le but, nous aurons toujours cette conviction que toute chose concourt à notre bien. Savoir patienter sans se décourager est le secret. Secret de la réussite. Pour autant que vous persévérez, pour autant que vous continuez dans le bon chemin, vous ne pouvez jamais dire que vous avez abandonné ou bien vous avez échoué. L'échec est lorsque vous abandonnez. Dans notre vie chrétienne, et je répète ce serment, c'est pour vous encourager, dans votre vie chrétienne, la vôtre comme la mienne, nous ne devons jamais cesser d'avancer vers le but. Jamais abandonner. Car, je répète, pour autant que nous continuons, la réussite est encore au bout du chemin. La croissance chrétienne est une épreuve pour certains d'entre nous, mais cette croissance demande non pas seulement une conviction que toutes choses concourent à notre bien, mais aussi une conviction que Dieu nous aime, que Dieu ne nous abandonne jamais. Voilà pourquoi, malgré tout, mes frères et mes sœurs, tâchez d'être un peu plus joyeux que vous ne l'êtes. Quel que soit votre âge, quelles que soient les circonstances, souriez, non pas seulement de visage, mais de cœur. Car c'est ça, la vérité. Le Christ est appelé un homme de joie. Et pourtant, il a souffert, il a été persécuté, crucifié. C'est de cela dont je parle. Autrement dit, tâchez de comprendre. Les promesses divines doivent être pour vous une source d'encouragement. Et si vous souriez dans votre fort intérieur, en vous rappelant les promesses divines, vous verrez la différence. Vous verrez en effet que Romains 8, 28 s'applique à votre cas. Une chose est certaine. Je dis souvent, et je l'ai entendu par des personnes qui m'ont instruit, ce monde où nous vivons, c'est comme si nous allions au cinéma et nous voyons un film. Un film, si vous entrez au cinéma, au milieu du film, vous ne savez pas ce qui a été au commencement et vous ne savez pas ce que sera la fin. Vous êtes au milieu du film, donc vous êtes confus. Alors, vous ne pouvez pas prendre des décisions. Vous ne savez pas comment vous diriger. La vie est ainsi en ce qui vous concerne, vous et moi. Nous sommes nés et nous apprenons, nous faisons des progrès, mais nous sommes au milieu du film. Nous ne savons pas ce qu'est la fin. Certes, la Bible nous dit, nous révèle, mais pour la plupart d'entre nous, ces révélations ne sont pas claires. Et en fait, nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est que la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Notre esprit humain est limité. Donc, attendez la fin du film. C'est-à-dire, attendez la fin de votre vie, quel que soit votre âge, ça n'a pas d'importance. Toujours en ayant cette conviction que les promesses divines sont toujours là, sont toujours justes. Et ce faisant, voyez-vous, vous pouvez avoir le cœur joyeux. Prenez encore Paul. Je répète Paul parce que c'est un exemple frappant pour nous tous. Il a souffert plus que nous autres. Il a été battu de verge, comme vous avez vu lapidé. Mais c'est lui qui a écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 14 épîtres. Et dans la plupart de ces épîtres, de ces écrits, il nous dit d'être joyeux. Il se sert de ce mot, joie ou joyeux, plus que les autres apôtres. Regardez voir, par exemple, Philippiens 4, verset 4. C'est facile, parce que Philippiens 4, 4, rappelez-vous ça. Un homme qui a souffert, un homme qui a été lapidé, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours signifie toujours. Mais dans le Seigneur, autrement dit, non pas à cause de votre, de vos besoins physiques, mais parce que Dieu vous a appelé, parce que Dieu vous a confié une mission, parce que Dieu veut que vous soyez avec lui éternellement. Donc, une fois que vous avez cette idée dans votre esprit, vous pouvez vous réjouir toujours. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Avez-vous un seul verset, une seule phrase. Il répète deux fois, réjouissez-vous. Ensuite, il ajoute, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Douceur, nous ne sommes pas toujours doux, nous ne sommes pas toujours bons, nous ne sommes pas toujours gentils avec tout le monde. Nous avons nos caractères, chacun de nous, et avec ce caractère humain, charnel, je dirais, nous sommes parfois jaloux, nous sommes parfois égoïstes. Et nous cherchons en premier lieu à satisfaire nos propres désirs. Ça, ce n'est pas douceur. Et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Cette bonté divine qui est en nous si nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et ensuite, tout d'un coup, Paul nous donne un encouragement fantastique. Regardez voir. Qu'est-ce que vous désirez le plus en ce moment? Quelle est votre prière quotidienne? Vous dites que ton règne vienne au Christ. Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et le Seigneur est proche. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, on peut dire que le Seigneur est proche, que le retour du Christ est proche. Alors, d'autant plus, nous devons mettre foi en ces promesses et avancer avec force. Il dit, ne vous inquiétez pas, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voyez-vous, il faut exprimer à Dieu vos besoins. Mais soyez sûr que vos besoins ne prennent pas la priorité dans votre vie. Il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, c'est-à-dire, le jeûne s'il le faut, avec des actions de grâce, avec des sacrifices s'il le faut. Et c'est étrange, parce que, oui, humainement parlant, ça c'est un travail dur. Comment vraiment je peux m'exprimer à Dieu et lui exprimer mes besoins, des prières, des supplications, des actions de grâce? Alors l'apôtre Paul nous explique, il dit, et la paix de Dieu. Comment, avec toutes ces conditions, de la paix peut être en vous? Mais c'est ça le secret. Humainement parlant, on ne peut pas comprendre que la paix arrive de par ces conditions. Et la paix en Dieu, dit-il, la paix de Dieu, qui surpasse, regardez-moi ça. Vous savez, parfois j'aime lorsque la Bible met l'accent sur des superlatifs. Nous autres humains, nous ne savons pas ce que c'est que le superlatif. Il faut les éviter si c'est possible. D'accord. Mais lorsque la Bible parle superlatif, la Bible entend ce qu'elle dit. Regardez-moi ce qui est marqué ici. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est beau, c'est magnifique et c'est juste. Ce sont des versets, voyez-vous, dans la Bible, qui nous donnent le courage. À vous, à moi. Souvent, je me réfère à ces versets. En fait, ces versets, dans ma vie privée, sont d'un secours fantastique parce que moi aussi, j'ai des difficultés. Mais sûrement, je tâche d'appliquer ce que je vous prêche ici. Je tâche d'avoir les yeux sur le Christ, sur les promesses, et avancer avec force, avec courage, sans jamais regarder en arrière si cela ne me fait pas du bien. Voyez-vous, après avoir dit cela, après avoir dit « réjouissez-vous toujours », l'apôtre Paul nous donne la façon de se réjouir. Prenez le temps, je vous prie, de non pas lire, étudier ces versets. Prenez le temps de méditer ces versets. Lorsque vous avez des doutes dans votre vie, lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des difficultés, revenez à cette vérité élémentaire et regardez comment surmonter ces doutes, comment surmonter vos difficultés, comment portez les yeux sur le Christ. Notez-le. Philippiens 4, verset 8. Il dit, au reste, frère, dit-il, que tout, c'est encore le superlatif, tout, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai ne comprend pas ce qui n'est pas vrai ou ce qui est mensonge. De tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Là encore, méditez sur le sens de ce mot honorable. Tout ce qui est juste, juste aux yeux de Dieu. Tout ce qui est pur, pur aux yeux de Dieu. Tout ce qui est humble, aimable aux yeux de Dieu. Tout ce qui mérite l'approbation de Dieu. J'ajoute ce petit mot pour vous expliquer ces versets. Ce qui est vertueux, vertueux aux yeux de Dieu, est digne de louange, louange de la part de Dieu, et non pas de louange de la part des hommes, parce que souvent, les hommes vous font des compliments, mais ce n'est pas sincère. Mais ce qui est digne de louange de la part de Dieu, soit l'objet de vos pensées. Ah, voyez-vous, maintenant je commence à avoir une idée différente en ce qui concerne la vie. Donc, si mes préoccupations prennent mon temps, si mes soucis prennent mon temps ou me découragent, je relis Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation divine, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de mes pensées. Ce faisant, voyez-vous, vous commencez à être un individu selon le cœur de l'Éternel. Ensuite, l'apôtre Paul conclut au verset 9, ce qui est intéressant, il dit, « Ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi. » Autrement dit, Paul n'a pas dit ces mots en vain, pas du tout. Il a mis en pratique, voilà pourquoi il a pu dire lui-même, sous l'inspiration divine, « Soyez toujours joyeux. » L'apôtre Paul a fait face à des persécuteurs. Il a été devant des rois, il a été jugé par les tribunaux. Mais lui-même, voyez-vous, il a eu ce courage et il a pu dire que ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, faites cela, pratiquez-le. Et Dieu, le Dieu de paix, sera avec vous. J'aime bien de voir ces précisions. J'aime bien voir, par exemple, il n'a pas dit « Dieu sera avec vous », il dit « Le Dieu de paix sera avec vous ». Ces petits mots nous échappent lorsque nous lisons la Bible. Et pourtant, si nous étudions la Bible, ces petits mots ne nous échapperaient pas. Et c'est ça qui fait la différence, voyez-vous. Vous êtes membre de l'Église, j'espère. Pas tous peut-être, vous n'êtes pas baptisés. Mais si vous êtes membre de l'Église, accomplissez-vous votre part dans l'Église, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous croissez chaque jour dans la grâce et la connaissance? Est-ce que vous vous approchez chaque jour de Dieu? Est-ce que vous priez chaque jour, vraiment, honnêtement? Non pas seulement pour demander à Dieu vos besoins, mais demander que le royaume vienne pour que le monde cesse de souffrir. Non pas seulement ceux que vous aimez, mais même vos ennemis. C'est ainsi que vous pouvez aimer vos ennemis comme vous-même. Le Christ est mort pour vos ennemis, et pour vous, et pour moi. Voyez-vous, c'est ça qui fait la différence. Aucune souffrance humaine, aucune tragédie, quelle que soit sa gravité, ne doit nous faire détourner de cette vérité élémentaire. J'ai rencontré certaines personnes, vous aussi, qui se plaignent parfois en disant que c'est trop, je ne peux plus en supporter. Il y a même des gens, hélas, qui se suicident. Un suicide est une décision que vous prenez parce que vous n'en pouvez plus. Et pourtant, si vous êtes vraiment convaincu, si vous êtes vraiment un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous ne devez jamais être découragé à ce point-là. Non, jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a fait des promesses dans la Bible auxquelles vous devez croire, et si vous croyez à ces promesses, vous ne pouvez jamais abandonner, jamais. Comme je dis, il y a des gens à qui j'ai parlé, ils disent, Monsieur Appartient, j'en peux plus, c'est trop. Eh bien, ce faisant, si vous dites cela, vous savez ce que vous faites? Indirectement, vous faites Dieu menteur. Oui, je n'ai pas peur de dire cela. Parce que la Bible dit clairement que Dieu ne vous permettrait pas de souffrir plus que vous ne pouvez supporter. Notez-le. Autrement dit, voyez-vous, si la Bible dit que non, ce n'est jamais trop, dans ce cas-là, lorsque vous dites c'est trop, c'est que ou bien vous mentez, ou bien c'est Dieu qui ment. Et la réponse est simple, c'est vous qui mentez. Voilà où nous en sommes. 1 Corinthiens 10, verset 13. Là encore, comme je dis souvent, je le répète, ne lisez pas ce verset, méditez ce verset. Prenez, s'il le faut, toute une heure à y réfléchir. Prenez certainement plusieurs minutes à y réfléchir et non pas lire seulement. Les gens me disent, je lis la Bible une demi-heure par jour. Je dis souvent, écoutez, est-ce que vous lisez vraiment ou bien vous perdez votre temps? Soyons francs. Parce que si vous répétez la même chose, ou bien si vous faites la même demande, et si vous ne sentez pas dans votre cœur, si vous ne coopérez pas dans ce désir collectif que le règne de Dieu vienne, franchement, vos prières sont trop égoïstes. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, je répète, 1 Corinthiens 10 à 13. Aucune, là encore, prenez le superlatif. Aucune signifie aucune. Il n'y a pas d'exception lorsque vous dites aucune. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc, lorsque vous commencez à vous comparer aux autres, les autres ont aussi souffert quand vous souffrez, ou même plus parfois. Ne dites pas, j'en peux plus, personne ne comprend mes souffrances. Si, beaucoup de gens comprennent parce qu'ils sont passés par là ou ils passent par là. Donc, Paul dit, aucune tentation n'eût été humaine. Et Dieu, regarde encore une fois cette promesse positive, et Dieu qui est fidèle. Fidèle signifie fidèle. Fidèle n'est pas parfois fidèle, parfois non, parce que ça ne serait pas fidèle. Qui est fidèle ne permettra pas, voilà encore une autre condition. Si Dieu ne permet pas quelque chose, c'est quelque chose n'arrivera pas. C'est simple, c'est clair. Parce que Dieu peut tout faire. Dieu a toute puissance, toute sagesse, toute bonté. Donc si Dieu ne permettrait pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, et ça c'est la condition, mais avec la tentation, ajoute Paul, Dieu prépara aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je répète, asseyez-vous ou bien agenouillez-vous, méditez à cette promesse. Dieu, qui est tout-puissant, ne permettra pas, et si Dieu ne permet pas, la chose n'arrivera pas, que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il vous promet de vous donner le moyen d'en sortir. Voyez-vous, je prends mon temps, je fais exprès. Réfléchissez. Car nous avons tous, par moments, nous disons, je n'en peux plus. Ce mot, je n'en peux plus, lorsqu'il s'agit de la Bible, lorsqu'il s'agit de notre croissance chrétienne, n'est pas valable. Lorsque vous arrivez à ce point-là, mettez-vous à genoux. Et si vous avez des amis qui vous sont vraiment proches et qui peuvent vous aider, allez leur parler. Ou même, parlez-leur en citant ces versets, car en aidant les autres, vous vous aiderez vous-même. Alors que, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, les années passent, je vois moi-même, car j'ai vécu pas mal de temps, j'ai voyagé beaucoup, j'ai vu plusieurs pays, j'ai vu les souffrances humaines, j'ai vu la façon dont l'humanité se dégrade, la façon comme l'humanité s'éloigne de Dieu, et ça fait de la peine. Ce n'est pas pour juger que je dis cela, mais je vois cette dégénérescence humaine. Nous sommes tous dans cette même situation. Si nous avions en nous la parole de Dieu, les assurances que Dieu nous fait, les promesses qu'il nous fait, si nous pouvions vraiment respecter la parole de Dieu, nous pouvions voir ça, faire notre part pour aider les gens, mais jamais nous décourager. Malheureusement, peu de gens mettent en pratique les enseignements bibliques. Peu de gens croient à la Bible. Peu de gens pensent que Dieu entend ce qu'il dit dans la Bible. C'est là, hélas, la tragédie humaine. Alors que, par moment, il ne serait plus avantageux de souffrir un peu et de nous rapprocher de Dieu, certains d'entre nous, à ces moments-là, se laissent aller par le découragement. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Car si vous avez, je répète, les yeux sur le but final, et cette conviction absolue que Dieu entend ce qu'il dit, et c'est ça la vérité, Dieu entend ce qu'il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute en ce qui concerne votre victoire. Votre victoire est arrivée, déjà, parce que la parole de Dieu est sûre. Le Christ dans l'Évangile selon Matthieu, vers chapitre 24, nous décrit ce qu'est la vie, ce que sont les promesses divines, comment la fin viendra et quelle devrait être notre attitude. Là encore, c'est un chapitre dont nous avons souvent parlé, j'ai parlé dans mes sermons. Et le Christ, dans ce chapitre, Matthieu 24, je le répète, décrit et souligne plusieurs choses. L'une des choses qu'il décrit, premièrement du reste, il nous met en garde. Après avoir dit qu'il reviendra, dans les premiers versets de Matthieu 24, il dit, méfiez-vous de faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui viennent parler en mon nom, dit-il. Donc, il nous met en garde contre les mensonges des gens. Donc, il nous met en garde contre les mensonges des gens, les faux prophètes. Il ne faut pas que quelqu'un vous séduise. Il ne faut pas que quelqu'un arrive à vous séduire. Car ce que l'homme dit, il peut se tromper. Ce que Dieu dit, il ne se trompe jamais. Ne vous laissez pas vous séduire par le mensonge. Ne vous laissez pas vous séduire par des paroles plaisantes, mais vaines, et qui ne seraient pas conformes à la volonté de Dieu. Que la Bible soit pour vous la boussole par laquelle vous vous laissez diriger. Que la Bible soit pour vous une lampe. Comme Christ a dit, c'est une lampe devant vous. La parole de Dieu, a ajouté le Christ, est la vérité. Si vous avez cette assurance, si vous avez cette conviction jusqu'à la fin, vous pouvez toujours être joyeux. Humainement parlant, peut-être pas, ça ne se montrera pas sur votre visage, mais dans votre cœur. Notez ce que le Christ a dit dans Matthieu 24, versets 11 à 13, et c'est ça la condition principale du salut. Parce que vous dites, que dois-je faire pour être sauvé? Certes, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, mais regardez comment le Christ répond. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes, voilà que ça commence, faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, mais vous n'avez pas besoin d'être ce groupe. Parce que vous connaissez la vérité, parce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu, vous devez vous être loin de ce groupe. Il dit, parce que l'iniquité, c'est-à-dire le péché, se sera accru, c'est-à-dire élevé, multiplié. La charité, c'est-à-dire l'amour. Maintenant, on parle de l'amour humain. La charité du plus grand nombre se refroidira. Regardez les mariages aujourd'hui. Regardez ces familles qui se brisent. Regardez ces divorces. Regardez cette attitude humaine qui nous mène vers le désir de détester, de haïr quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'amour. Il dit, l'amour du plus grand nombre, dit-il, se refroidira. C'est ce qui se passe. Ce n'est plus l'amour dont le Christ a parlé et pour lequel il est venu donner sa vie. Et pourquoi? Autrement dit, quelle est la réponse? Comment peut-on vraiment sortir de cette situation? Comment peut-on être sûr du salut? Voilà la réponse. C'est simple, c'est exprimé dans un seul verset. Verset 13, Matthieu 24, celui qui persévérera, autrement dit celui qui sera patient, qui va endurer, qui va aller jusqu'au bout, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous direz, quelle est la condition du salut? Là voilà. En un seul mot, persévérer jusqu'à la fin. Persévérer signifie, je répète, ne pas abandonner. Persévérer, je répète, c'est ne pas regarder ailleurs que dans la Bible, qui constitue la parole de Dieu. La Bible, en effet, est une lampe devant nous. La Bible nous éclaire le chemin. La Bible nous montre ce qu'est la volonté de Dieu. La Bible nous donne tout l'encouragement dont nous avons besoin. Voyez-vous, l'apôtre Paul, pour pouvoir supporter tout ce qu'il a souffert, pour pouvoir être lapidé, persécuté, comme il a été, il devait avoir un certain degré de courage en lui. C'est ce même courage que vous et moi, nous pouvons avoir en même temps si nous laissons Dieu agir en nous. Car le courage de l'apôtre Paul venait du Saint-Esprit. Et si vous avez, vous, été baptisé, vous avez ce même courage en vous. De même moi, de même ceux qui sont baptisés. Donc, ce que nous devons faire, voyez-vous, dans ces moments-là de souffrance, lorsque tout va mal, ou bien semble aller mal, alors nous devons prendre notre temps et dire, en effet, que toute chose concourt à notre bien parce que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu quoi qu'il arrive et parce que nous sommes appelés selon son dessein. Les circonstances sont hostiles, d'accord, mais Dieu est toujours avec nous. Dieu est plus fort que les circonstances. Voilà la façon dont l'apôtre Paul a réagi et voilà comment il nous encourage nous-mêmes à réagir. Notez-le. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6. C'est pourquoi, dit-il, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Il répète. Il y a dans la vie des circonstances qui nous feraient perdre courage. Mais si vous avez cette conviction, vous n'avez pas besoin de perdre courage. Nous rejetons, dit-il, les choses honteuses qui se font en secret. Rejeter et non pas faire partie. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Voilà comment être chrétien. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, regardez toutes ces confusions de par le monde. Le christianisme est divisé en des centaines de sectes et de dénominations. Alors que la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est solide. Il dit, n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, dit-il, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Devant Dieu, pas devant des hommes. Il ajoute, si notre évangile, verset 3, est encore révoilé, il est révoilé pour ceux qui périssent. Voilà encore un verset intéressant. L'évangile de Dieu n'est pas voilé en ce qui vous concerne, vous, si vous êtes membre de l'Église de Dieu, si vous avez reçu le Saint-Esprit. L'évangile de Dieu n'est pas voilé en ce qui me concerne. Mais nous devons agir de façon conséquente. Nous devons agir comme si nous croyons et nous devons croire et avancer dans cette direction. Il dit, l'évangile est voilé pour ceux qui sont incrédules, le verset 4, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence. Dieu vous a ouvert l'intelligence, vous a ouvert les yeux le moment où vous avez reçu le Saint-Esprit. Dès ce moment-là, Satan ne peut absolument rien faire contre vous. Il ne doit jamais pouvoir surmonter quoi que ce soit en ce qui concerne pour vous faire décourager, pas du tout. L'évangile pour vous n'est pas voilé. S'il est voilé pour les incrédules de ce siècle, ça c'est autre chose. Mais il dit, afin que vous, qui êtes appelés, je paraphrase, vous puissiez avancer dans cette gloire que le Christ nous promet. Voyez-vous, c'est ça qui nous donne la force de continuer. C'est ça qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout, même au moment où nous nous disons vainement, j'en peux plus. verset 6, toujours de Corinthiens 4. Regarde voir cette beauté encore. Je dis, c'est un sermon d'encouragement, entre autres, un peu plus que ça. Il dit, Dieu qui a dit, verset 6, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière, dit-il, dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Entendez-vous ces paroles, mes amis? Et comprenez-vous comment réagir? Comment pouvoir changer d'attitude de négativisme en une attitude de positivisme? Comment voir les événements qui sont mauvais et voir à travers ces événements la lumière qui luit? L'apôtre Paul ajoute, c'est beau comme il décrit, verset 7, « Nous portons, dit-il, ce trésor dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est nous, notre corps. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Tout ce que nous avons reçu de Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Faisons-lui confiance. » Dit-il, regardez-moi cette force, c'est ça qui était en l'apôtre Paul, qui doit être en nous, en vous et en moi. Nous sommes, dit-il, pressés de toute manière. Et nous le sommes, vous et moi, mais non réduits à l'extrémité. Donc, vous ne pouvez pas dire, je n'en peux plus. Non, jamais. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Regardez voir cette explication. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ce ne sont pas des paroles vides de sens, ce sont des paroles extrêmement fortes, encourageantes, et elles constituent la vérité. Comment est-ce que nous arrivons à cela? Verset 10, « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Voyez-vous, ça c'est la vérité. Vous n'avez qu'à lire le reste, c'est extrêmement important, mais prenez le temps de lire, d'étudier. Laissez-moi au moins vous dire le verset 14, parce que mes yeux tombent sur ce verset. « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Père, nous ressuscitera aussi avec Jésus, lorsque le Christ reviendra, et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Voilà le but final. Voilà sur quoi vos yeux doivent être fixés. Vous et moi, nous avons cette compréhension. Vous et moi, nous avons en même temps aussi des afflictions, certaines. Nous avons des difficultés, c'est certain. Mais si, vraiment, nous avons les yeux sur le but final et la compréhension de ces vérités indispensables, nous ne pourrons jamais, et je répète bien jamais, nous décourager. Je vous ai cité à plusieurs reprises dernièrement, surtout, les paroles du Christ après la mort et la résurrection du Christ, lorsqu'il a conversé avec l'apôtre Pierre. Laissez-moi le citer à nouveau parce qu'il y a une grande leçon ici à apprendre. Jean 21, verset 15 à 17. Jésus dit à Simon-Pierre, le fils de Jonas, dit-il, m'aimes-tu? Le Christ savait. Le Christ s'est servi de mot m'aimer dans ce sens différent de ce mot amour que nous employons souvent, vous et moi. C'est agapé en grec, qui signifie aimer de façon divine. Donc, il dit, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapé. Pierre répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il n'a pas compris. Et le Christ a dit, si vraiment tu m'aimes comme moi j'aime les brebis, paie mes brebis. Autrement dit, vous pouvez aussi vous-même, dans ce que vous faites, avoir cette mission de prendre soin de quelqu'un, d'aider quelqu'un, d'encourager quelqu'un. Ensuite, pour la deuxième fois, le Christ dit, m'aimes-tu? Toujours dans le même sens. Et Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il n'a pas compris. Et le Christ répète, paie mes brebis. Prends soin de ceux qui ont besoin de l'encouragement, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'avancer dans la vérité. Et pour la troisième fois, il répète, cette fois-ci, il se met, le Christ se met à la compréhension de l'apôtre Pierre, il dit, m'aimes-tu ? Et il se sert du mot philos en grec, un amour que Pierre comprenait. Il dit, et à ce moment-là, Pierre était attristé parce que le Christ demande trois fois s'il l'aime. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Certes, le Christ savait, mais Pierre ne comprenait pas. Voilà pourquoi le Christ a répété, paix, mes brebis. Voyez-vous, il y a une grande leçon ici. Ce n'est pas une question seulement d'un ministre qui doit paître le troupeau. C'est une condition pour chacun de nous de prendre soin de nos frères et sœurs, de les encourager au moment le plus important pour eux, peut-être de leur tenir la main, ou bien de leur prononcer un mot d'encouragement. Peut-être même de prier avec eux, je ne sais pas. Autrement dit, tout dépend des circonstances. Mais ce genre d'amour est une partie de notre croissance chrétienne. Voyez-vous, l'amour de Dieu ne connaît pas d'injustice. L'amour de Dieu ne connaît pas de jalousie. L'amour de Dieu ne connaît pas d'égoïsme. Et nous, malheureusement, nous ne comprenons pas tous que l'amour de Dieu ne peut pas se manifester en nous, à moins que nous nous repentions de nos péchés, à moins que nous cessions de pécher, à moins que nous ayons ce courage de dire que toute chose concourt à notre bien, car nous sommes appelés de Dieu et que nous aimons Dieu. C'est ça la différence, voyez-vous. Avant toute chose, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes appelés à être les serviteurs de Dieu, à préparer le chemin devant le retour du Christ. Avant toute chose, je répète, soyons humbles. Car nous n'avons rien nous-mêmes. Tout ce que nous avons reçu de Dieu. Même le courage dont nous avons besoin nous vient de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, soyons humbles. Nous avons tout reçu de Dieu et tâchons de partager ce trésor que nous avons reçu avec les autres. La seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, je le répète, c'est en persévérant jusqu'au bout et en étant humble. Comme Salomon écrit, la gloire vient une fois que nous sommes humbles. Je paraphrase. Il a dit, l'humilité précède la gloire. Cette humilité est en Christ, cette humilité nous permet de voir quelle sera la fin. Le Christ nous dit, lorsque vous voyez des gens qui souffrent autour de vous, lorsque vous voyez des gens qui sont victimisés, mettons, ne pensez pas, dit-il, laissez-moi le citer, je pense que ça vaut la peine au moins, cette phrase dit, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes meilleur que eux ou bien qu'ils étaient pires que vous. Il dit, en ce même temps, dit-il, verset 1, Luc 13, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à certains Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui des sacrifices. Autrement dit, regardez cette inhumanité de Pilate. Et le Christ a dit, croyez-vous, voilà, c'est ce que je veux que vous preniez, que vous réfléchissiez, à quoi vous réfléchir. C'est ce que je veux que vous preniez vraiment au sérieux. Croyez-vous, dit-il, que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir de cette sorte, pensez-vous qu'ils étaient plus méchants que les autres? Je ne sais pas, Dieu seul est juge. Mais le Christ nous parle à nous parce que nous ne sommes pas justes. Aucun de nous n'est bon, divinement parlant. Il dit, je vous dis en vérité, verset 3, non, dit-il, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est un avertissement très fort, vous savez. Et encore, il dit, ou bien dit-il, verset 4, ces 18 personnes sur qui est tombé le tour de Siloé, et que les a tuées, pensez-vous, dit-il, que ces gens-là étaient plus coupables que les autres? La réponse est toujours la même. Non, dit-il, mais si vous, vous ne repentez, vous périrez également. J'aurais voulu vous donner des exemples. Exemple de Noé, exemple d'Abraham, exemple de David, pour montrer comment eux, lors des souffrances, ils ont maintenu leurs yeux sur le Christ. Mais faites ça vous-même. Ouvrez la Bible, lisez ces histoires. Lisez comment ces gens ont tenu le coup. Lorsque vous voyez le Christ, ses souffrances sur cette terre, qui surpassent celles de n'importe quel homme sur cette terre, lorsque vous voyez l'attitude du Christ qui a dit « Père, pardonne-leur leur offense, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Christ qui a dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Le Christ qui a dit « Aime ton prochain, y compris ton ennemi. » Alors vous comprendrez ce que c'est que la joie. La joie d'être un serviteur de Dieu. La joie de partager la gloire à venir. La joie de vous tourner vers le Christ. Et de savoir qu'il est toujours là à vous tenir la main. Et que vous pouvez marcher avec lui dans le chemin qu'il a tracé devant vous. Et que vous pouvez toujours vous dire ce que le Christ a promis. Ce que le Dieu suprême a promis. À mon égard, c'est toujours vrai. Que toute chose en effet concourt en mon bien, parce que j'aime Dieu et que je suis appelé selon son dessein.